17h28, on entre dans la data room. C'est votre bar à datas, le vendredi. La data room, un cocktail toujours détonnant de data qui secoue notre vision du monde. Kelly et Louis, êtes-vous prêts ?
Oui. Oui.
C'est ici et maintenant que tout se joue. Vous avez chacun une minute pour nous présenter une data hallucinante qui en dit plus qu'un long discours. On va démarrer avec vous, Kelly, votre chiffre, 9 000 milliards de dollars.
9 000 milliards de dollars, Guillaume, ce sont les dépenses annuelles d'ici 2030 qu'on va devoir faire pour être aligné sur les accords de Paris, donc lutter contre les changements climatiques, faire baisser la température mondiale. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2022, on a dépensé 1 300 milliards, donc il y a un jump nécessaire. 1 300 milliards, c'est 1% du PIB. 9 000 milliards, le PIB, bon, espérons, mondial sera en croissance, mais donc il va falloir aller chercher des financements. Aujourd'hui, si on regarde ces 1 300 milliards de dépenses pour lutter contre le changement climatique, c'est à peu près 50% secteur public, 50% secteur privé. Pour arriver à ces 9 000 milliards d'ici 2030, il va falloir inverser. On le sait, les États sont beaucoup trop endettés. Donc, pour pouvoir lutter et faire les investissements nécessaires, on pense qu'il y aura 30% de ces investissements qui viendront du public et 70% qui viendront du privé. Mmh. Et une des classes d'actifs qui est le mieux positionnée pour faire ces investissements, ce sont les infrastructures. Une classe d'actifs qui va notamment permettre la transition énergétique et qui va se retrouver finalement à chemin entre le public, le privé, pour pouvoir garantir ces changements.
Oui, la thématique infrastructure sur les marchés, encore thématique d'avenir. C'est l'idée.
C'est une conviction forte.
9 000 milliards de dollars, le montant des dépenses mondiales annuelles pour le financement de la lutte contre le réchauffement d'ici 2030, si on veut s'aligner sur les accords de Paris. Vous avez mis la barre très haute avec ce montant de 9 000 milliards. À vous de jouer, Louis. Votre data ce soir, 35%.
C'est un tout petit chiffre à côté.
Ah oui.
35%, c'est le pourcentage des prêts hypothécaires titrisés aux États-Unis qui ont été remboursés en temps et en heure cette année.
Oula, oula.
99% en 2021 et en dessous des 37% de 2009 au moment de la crise des subprimes. Et donc, on est tous dans un... Alors, les prêts hypothécaires titrisés, ça représente un peu moins de 15% du total. Donc, on ne peut pas dire que ça affecte le total, mais ça donne une couleur sur l'ensemble et la santé de l'immobilier commercial aux États-Unis.
35% donc des prêts hypothécaires titrisés ont été remboursés cette année. 35%
en temps et en heure.
Contre 99% en temps et en heure, contre 99% en 2021 et 37% en 2009, on était après la crise de Lehman. Donc il y a un souci là.
Il y a un vrai souci parce qu'il faut se souvenir que sur le stock de 2100 milliards de prêts hypothécaires sur l'immobilier commercial aux États-Unis, il y en a 80% qui est porté par les banques régionale américaine, que chaque mois qui passe avec des taux qui restent higher for longer, comme nous dit Jérôme Powell, met ces banques dans des difficultés absolument incommensurables. On ne voit rien venir pour l'instant, mais il faut se souvenir, il y a un peu plus d'un an, de la SVB. La SVB, c'est arrivé en un jour.
Banque régionale, oui.
La veille, on ne pensait pas qu'il y avait un problème. Le lendemain, il y avait un problème. Et donc... pour illustrer tout ça, il y a un immeuble dans le centre de Chicago qui avait été acheté en 2013, 25 millions de dollars. Il vient d'être vendu 2,3 millions de dollars dans le plein centre d'affaires de Chicago. Et donc là, il y a quelque chose qui, à mon avis, n'est pas très sain. Et je ne dis pas que ça remet en cause le scénario dominant aujourd'hui du soft landing, le Goldilocks, etc. Mais on est quand même en stress avec un risque qui est quand même majeur aux États-Unis sur le système financier, qui, à mon avis, est sous les eaux. C'est un petit peu Jaws, vous voyez, c'est un peu... les dents de la mer, on ne sait pas bien si c'est là, mais si ça sort, ça va bouffer des gens, ça c'est sûr.
Il y a une série aussi avec un requin dans la Seine, hein, vous savez.
Voilà, bah exactement.
Sorti juste avant les Jeux Olympiques.
C'est un film,
effectivement. Ouais. Alors, il y a une banque japonaise, là, c'est la cinquième plus grande banque japonaise qui a des pertes colossales et qui, pour compenser une partie de ses pertes, a annoncé une vente massive d'obligations américaines hier.
Oui, et une augmentation de capital de quelque chose comme 12,5 milliards de dollars.
Oui. Donc il y a encore un sujet financier malgré tout.
Il ne va pas partir tant que les banques centrales ne font pas quelque chose.
Kelly, là-dessus, un regard.
Sur le sujet des banques centrales, nous, on pense que finalement, aujourd'hui, ce n'est pas tant le nombre de baisses qu'il y aura, c'est plus le signal qui est envoyé par une baisse et une inflexion. Et on croit plutôt, nous, à un change. L'Europe s'est engagée sur une baisse de taux. Et je sais qu'aujourd'hui, tous les avis sont divergents, mais on pense plutôt qu'il y aura une baisse aux États-Unis qui viendra, je pense, un peu baisser la pression sur tous ces sujets et ces stress financiers possibles.
Kelly Hébert pour MNG, Louis de Montalembert pour Pléiade AM. Merci à tous les deux.